Chapitre 65. Le 23 août 2016, 21h02. La Passat atteignit la corniche de la Petracoda moins de 10 secondes plus tard. Clotilde écrasa la pédale de frein. La voiture se déporta, glissa quelques mètres sur la chaussée, pour s'arrêter au milieu, empêchant tout autre véhicule de passer. Clotilde la laissa là, sans même prendre le temps d'actionner les warnings, de couper le contact ou de serrer le frein à main. Elle ouvrit la portière avec violence et se précipita vers la rambarde de bois déchiquetée quelques instants plus tôt par la Fuego. La voiture rouge flottait sur l'eau, 20 mètres plus bas, ballottée dans les remous tel un bouchon entre les écueils. Il était impossible de distinguer l'état de la carrosserie, mais Clotilde imagina qu'elle avait dû rebondir sur les rochers, une fois, deux fois, 10 fois. Il y avait peu de chance, malgré sa vitesse, qu'elle ait directement plongé dans la crique étroite et profonde où elle coulait, seconde après seconde. La Fuego était déjà aux 2/3 recouverte par la mer. Encore 2 ou 3 secondes, et elle coulerait définitivement dans l'eau turquoise. Elle se surprit à espérer que Valentine et maman aient été tuées sur le coup, dans l'impact, qu'elles ne connaissent pas la lente agonie de la noyade. Elle se brûlait les yeux à fixer la tôle à peine émergée. Mon Dieu! Seule la lunette arrière sortait encore de l'eau, lavée par les vagues. Clotilde crut distinguer 2 silhouettes, 2 ombres s'agitant frénétiquement. Une illusion. Elle ne le saurait jamais. L'instant suivant, il ne resta plus à la surface de l'eau qu'une écume joyeuse qui reprenait possession de son terrain de jeu et s'amusait à nouveau à jeter 1000 bulles éphémères sur les rochers nus. « Pousse-toi !» Clotilde ne réfléchit pas, se poussa. Cassano s'avança au plus près du rebord, puis plongea. En un flash, Clotilde se souvint d'une vieille conversation avec son papé. Tous les jeunes Corses sautaient de là. Ton grand-père était le plus audacieux de tous. Elle se mordit les lèvres au sang. Est-ce qu'un corps, après toutes ces années, pouvait garder la mémoire de cet équilibre parfait qu'il fallait atteindre pour chuter de 20 mètres sans se fracasser contre la surface de l'eau? Conserver cette capacité de concentration indispensable pour contrôler sa chute, viser le point juste, atteindre la mer sans heurter la mâchoire de la falaise qui ne s'ouvrait que de quelques mètres? Rester suffisamment clairvoyant dans l'ultime instant avant l'impact, pour anticiper la profondeur du bassin et éviter la partie immergée des icebergs rouges plantés comme des pieux dans une douve. Oui. Oui, le corps de Cassano n'avait rien oublié. Était-ce le hasard, la chance, ou Papé avait-il réellement été un plongeur exceptionnel? Son saut décrivit une trajectoire parfaite, rectiligne, rasant les pics de granit, pour disparaître dans les remous à l'endroit précis où la Fuego venait de couler. Plus rien. Clotilde ne vit plus rien pendant d'interminables secondes. Cassano n'avait pas survécu à sa chute. Il s'était sacrifié. Il n'avait pas sauté pour les sauver. Il s'était suicidé pour ne pas affronter sa culpabilité. Des sirènes hurlèrent dans son dos. Des portières claquèrent. Des bruits de pas affolés firent vibrer la chaussée bitumée. À regret, Clotilde tourna la tête. Un instant seulement, avant de scruter à nouveau l'eau. Seule comptait la surface de cette piscine turquoise. Priez, priez, priez. Priez pour voir un corps, une tête, une main la crever. Derrière elle, les nouveaux arrivants s'agitaient. Clotilde avait eu le temps de reconnaître parmi les 4 ou 5 gendarmes en uniforme le capitaine Cadena, le sergent Cesareo Garcia, sa fille Aurelia et Franck. Franck avait fait ce qu'il fallait. Il avait prévenu les flics. Ils avaient été rapides. Mais qu'importait leur réactivité? Arriver 1 minute trop tard équivalait à 1 éternité. Franck lui prit la main. Clotilde se laissa faire. 1 éternité. La Méditerranée ne rendait rien, jamais. Le cœur de Clotilde explosa.
Là !
Dans les remous d'écume, le buste de Papée venait de surgir. Il tenait un corps entre ses bras. Clotilde apercevait ses efforts désespérés pour le hisser hors de l'eau. Enfin, sa tête, son cou, ses épaules émergèrent. Valou. Vivante. Les longs cheveux bruns de sa fille flottaient en pieuvre autour de son visage. Franck serra plus fort encore la main de Clotilde. Valou ne toussa pas, ne cracha pas l'eau salée de ses poumons. Sa bouche était couverte d'un sparadrap.
« Putain !» hurla son mari. « Elle est bâillonnée, menottée, elle ne tiendra pas !»
Les rochers au fond de la crique étaient trop abrupts, presque verticaux et sans aspérité. Cassanou et encore moins Valou ne pouvaient s'y accrocher. Le vieux corps s'avait déjà replongé. Valou flottait, comme elle pouvait, ouvrant des yeux hallucinés, cédant sans doute de ses jambes, dont Clotilde ignorait si elles étaient ou non liées pour se maintenir en surface.
« Elle ne tiendra pas !» répéta Franck. « Balancez-lui une corde, bordel ! Une bouée, n'importe quoi !»
Les gendarmes se regardèrent, consternés. Ils avaient foncé dans leur camionnette dès que Franck les avait appelés, pour un enlèvement d'adolescente, pas pour un secours en mer. Jamais ils n'auraient pu imaginer. On attendait les pompiers, on les avait appelés, ils arrivaient. Valou tentait désespérément de se maintenir en position horizontale à la surface de l'eau, mais les vagues, trop puissantes, la ballottaient avant de s'exploser sur les rochers. Chacune semblait capable de l'emporter, la recouvrait, mais Valentine réapparaissait dès que le tourbillon s'éloignait. Elle s'accrochait. Comment peut-on s'accrocher au vide, au liquide? Clotilde hurla, puisque sa fille était privée de voix.
« Merde, pas un de vous ne va sauter ?»
Les hommes hésitèrent. L'ouverture dans la falaise était étroite. L'abrupte, vertigineux. Les rochers émergeaient si nombreux qu'il fallait être un plongeur professionnel pour s'y risquer. Même un bon amateur n'avait pas une chance sur 10 de passer sans se rater et terminer accroché à la paroi. Franck franchit le premier le parapet.
« On doit pouvoir descendre, trouver un chemin à sauter de plus bas !»
Il glissa sur les fesses quelques mètres, s'accrochant de branche en branche aux rares genêts poussant entre les rochers. Les quatre flics lui emboîtèrent le pas.
« Vite !» cria encore Clotilde.
Papé venait de surgir à nouveau. Il semblait épuisé, déchiré par une toux, craché de l'eau, du sang, ses tripes. Mais il tenait un autre corps. À bout de force, il le porta hors de l'eau.
« Maman !»
Les yeux fermés. Inanimée. Mais elle respirait. Elle respirait, forcément. Si Papé tentait ainsi de la maintenir en vie, de sauver cette femme qu'il avait tant haïe, qu'il avait condamnée à perpétuité, c'est qu'elle vivait. Cette fois, Cassanou ne replongea pas. Il passa un coude sous les bras de Palma, comme on tire un paquet qui ne flotte qu'à moitié. Un matelas dégonflé, une bouée trop lestée. De son autre bras, il tentait d'atteindre Valentine. Il ne pourrait tenir ainsi que quelques instants. Franck et les gendarmes étaient bloqués. Tenter de descendre avait été la pire des idées. Sans équipement, il était impossible d'escalader et ils se retrouvèrent coincés dès qu'ils n'eurent plus aucun arbuste pour s'accrocher. Les parois étaient presque verticales, mais surplombaient d'autres rochers. Impossible de sauter. La seule fissure s'ouvrant sur la crique, aussi étroite soit-elle, se situait à la hauteur de la route. Il s'en apercevait seulement maintenant. Trop tard, il devait remonter. Toujours aucun signe des pompiers. C'est fichu, pensa Clotilde.
Foutu pour foutu. Après tout, Cassanou y était bien parvenu.
Elle s'avança, prit son élan. Jamais de sa vie elle n'avait plongé d'une plateforme plus haute que 3 mètres. Tant pis. Une main ferme la retint, s'empara de son poignet droit. Une main de colosse, à laquelle on ne résiste pas. Le sergent Cesario Garcia ne la lâcha pas, ne parla pas. Il se contenta d'un regard qui signifiait « Non, ça suffit, assez de morts. Un sacrifice de plus ne servirait à rien. » Ils n'étaient plus que 3 devant la barrière brisée. Cesario, Aurelia, et elle.
Laissez-moi !»
Elle tira. Le sergent ne céda pas. Clotilde sentait monter en elle une crise d'hystérie. Elle devait agir. Elle ne pouvait pas laisser sa fille et sa mère périr ainsi. « Écoute, » fit Aurélia. « Écoute quoi ?» Le vent soufflait de la mer. Peut-être repoussait-il vers les montagnes une sirène de pompiers ? Elle tendit l'oreille, n'entendit rien. Rien que le vent qui soufflait de plus en plus fort. Du moins, en avait-elle l'impression, qui formait des vagues toujours plus hautes, toujours plus fortes, toujours plus mortelles. Elle baissa les yeux. Cassanou avait atteint l'épaule de Valou, agrippé toujours Palma. Ils se tenaient tous les trois, serrés, comme des ballots tombés d'un cargo, flottant désespérément, tirés vers le fond, coulant, remontant, secoués, trempés, épuisés, sans autre espoir que de tenir, tenir, tenir. Tenir pourquoi? Jusqu'à quand? Qui pouvait leur tendre une main? Écoute, répéta Aurélia. Pendant des années, Clotilde se le reprocha. Jamais elle ne se remit vraiment de cette vexation. Aurélia avait reconnu ce bruit avant elle, même si elle ne l'avait quasiment jamais entendu. Ce bruit de moteur. Sur le moment, Clotilde se contenta de laisser exploser son émotion. De hurler de tous ses poumons. « Là! Là !» Et de crier à Papé. « Tenez! Par pitié, tenez! Vous êtes sauvés !» À une centaine de mètres, derrière le dernier cap de rocher qui masquait le reste de la presqu'île de la Revelata, la grotte des Vaux-Marins, le phare, la Punta Rossa, venait de surgir un petit bateau. Plus gros qu'une barque, moins qu'un vrai chalutier. L'Arion. Moteur à fond, fendant les vagues, slalomant avec aisance entre les écueils qu'il semblait connaître par cœur. Natal et à la barre, portait un coupe-vent rouge et ses cheveux blonds volaient au vent. Jamais le cœur de Clotilde n'avait battu aussi fort. Nathalie fut près des trois corps émergés en quelques secondes, coupa le moteur, se pencha pour saisir Valentine en premier. Ce ne fut pas aisé. Les vagues puissantes secouèrent le bateau dès que le moteur fut coupé. Valou sanglé était incapable de l'aider. Seul Cassanou pouvait pousser le corps de l'adolescente au risque de lâcher Palma. Nathalie se penchait sur le bastingage au point de manquer d'en tomber. Enfin, ils parvinrent à déposer Valentine dans le fond de la barque, autour de Palma. Elle bougeait à présent, suffisamment pour que son corps ne soit pas qu'un paquet à lever. Elle les aida de son mieux, se recroquevilla. Cassanou Idrissi passa un bras sous sa taille, un autre sous ses cuisses. La souleva jusqu'à ceux de Nathalie. Comme un marié porte sa promise pour franchir le seuil de la maison dans laquelle ils vivront toute leur vie. Clotilde eut l'impression qu'à ce moment leurs regards se croisèrent, que des mots sortirent de leur bouche. Dans ceux de son papé, elle lut « Pardon ». Dans ceux de sa mère, elle lut « Merci ». C'était stupide. Les lèvres de sa mère étaient bâillonnées. Allongée dans l'Arion, Palma rejoignit sa petite fille, sauvée. Nathalie, enfin, tendit sa main à Cassanou. Papé avait lutté près de 7 minutes contre la mer, les vagues, le courant, les rochers. Il y était pourtant parvenu, il avait tenu. Le vieillard était hors de force. Du moins, c'est ce que les gendarmes conclurent. C'est ce que les journalistes corses titrèrent à la une dès le lendemain. C'est ce que les chasseurs racontèrent avec une immense fierté au bar des Euproctes. C'est même ce que toute sa vie Clotilde dirait à Valou, à Palma, toutes les fois qu'elle lui demanderait comment tout s'était terminé. Papé avait lutté jusqu'à son dernier souffle. Jamais aucun témoin ne raconta ce qu'il croyait avoir vu. Nathalie et Angeli lui tendaient la main. Elle était à quelques centimètres à peine de celle de Cassanou. Il ne la saisit pas. Il se laissa couler.